nous allons du coup écouter la communication de Laura Isot et la France Saint-Martin qui va également revisiter un grand classique de la fantasy en nous parlant de la diversité dans la pensée sémiotique de Tolkien. Donc je me permets de me présenter Laura Isot et la France Saint-Martin en quelques mots, qui est doctorante en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal, ainsi que boursière du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, et également chargée de cours à la faculté de communication. Sa thèse porte sur la théorie sémiotique de Tolkien. Elle travaille également comme assistante de recherche pour la chaire de recherche du Canada sur les données massives et la communauté de joueurs. Et elle est membre active de deux groupes de recherche, Homo Ludens, donc sur le jeu et la communication, et GRISQ, donc l'acronyme GRISQ, sur l'information et la surveillance au quotidien. Nous allons tout de suite vous écouter.
Donc, bonjour à tous. Merci de me recevoir dans le cadre de ce colloque. Peut-être juste avant de commencer, juste pour vous mettre en contexte, je ne suis pas quelqu'un qui est en littérature, donc la forme de ma présentation va peut-être être un peu différente et je ne parlerai pas vraiment d'études littéraires non plus. Donc, je vais parler vraiment plus de réception et de communauté interprétative, comme c'est beaucoup plus que ce que je fais dans mes études en jeux vidéo. Donc, je m'intéresse beaucoup plus aux interprétations, aux communautés de joueurs. Donc, ça va porter un peu dans ce sens-là, mais en revenant sur l'œuvre de Tolkien. J'ai appris en même temps que vous qu'il fallait faire des trigger warnings. Donc, je pense pas que ma présentation soit problématique, mais ceux pour qui ça pourrait être un sujet sensible, je vais parler un petit peu de néo-nazisme et de white suprémacisme. Donc, si c'est quelque chose qui peut être très sensible pour vous, juste vous dire que ça va être pas discuter en profondeur, mais je vais en parler un petit peu. Donc, ma présentation aujourd'hui s'intitule « La diversité dans la pensée sémiotique de Tolkien ». Donc, je propose, dans le cadre de ma présentation, de réfléchir un peu à la divergence qu'on a des interprétations de l'œuvre de Tolkien à la lumière de ses écrits sur les processus d'interprétation, donc à la lumière de ce qu'il dit de manière théorique sur les processus d'interprétation. Donc, quelques petits mots pour quelqu'un qui a probablement pas besoin d'être vraiment représenté, mais Tolkien est un des écrivains très, très importants de l'histoire de la fantasy. Donc, c'est l'écrivain de The Hobbit, The Lord of the Rings et Le Silmarillion. Il a été très souvent appelé le père de la fantasy moderne, même si c'est quelque chose qui porte vraiment à débat. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat à savoir s'il peut avoir accès au titre de père de quoi que ce soit. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de reconnaître en fait son importance et son influence sur la cristallisation des codes et des attentes qu'on a envers la fantasy. Donc, c'est une influence qui dépasse entre autres largement les limites de la littérature, donc à travers, par exemple, le jeu de rôle sur table, donc Donjons Dragons, qui est beaucoup plus près des études que moi je fais habituellement, donc à travers les réinterprétations ludiques de son œuvre, et bien son influence s'est étalée en dehors de la littérature jusqu'aux jeux vidéo et jusqu'à une culture même qu'on peut appeler la culture geek, qui est très fortement inspirée de son œuvre. Donc, dans ce sens, qu'on dit de l'œuvre de Tolkien et de la manière dont on voit l'histoire de la littérature à la lumière de son œuvre est très importante. C'est principalement ça le problème à lequel je voudrais m'attaquer aujourd'hui, c'est que l'œuvre de Tolkien est interprétée de manière complètement divergente. Donc, il y a des interprétations vraiment très de gauche, comme on dirait, donc très progressistes, féministes et égalitaires et tout ça. Et on a à peu près la même fréquence d'interprétations qui vont être d'extrême droite, donc néo-nazistes et white suprémacistes, qui vont revendiquer l'œuvre de Tolkien comme étant fondamentales à leur culture, à leur discours. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, évidemment, maintenant, les interprétations plus de gauche, donc progressistes et féministes, sont de plus en plus fréquentes parce qu'on en parle de plus en plus dans les médias. Donc, ce type de réinterprétation-là devient très fréquente. Et je vous ai mis comme exemple, par exemple, le séminaire de cet été de la Tolkien Society qui porte sur Tolkien et la diversité et qui a fait réagir et qui a fait, bien évidemment, un débat au sein de la communauté. Donc, la chicane a pogné, comme on dit en bon québécois. Et donc, c'est un peu ce type de guerre au sein de la culture et du fandom de Tolkien qui m'intéresse. Donc, comment une œuvre, un même texte, peut soutenir autant des interprétations misogynes que féministes, autant racistes qu'antiracistes. Un peu pour soutenir cette divergence d'interprétation-là, Pascal Nicklaus, dans une recension en 2003, notait qu'il y a vraiment, sur Internet, on peut retrouver toutes sortes d'interprétations qui vont du néo-nazisme, comme je le disais, à ce que maintenant on appellerait le mouvement woke, donc des mouvements extrêmement extrêmement progressistes qui vont s'intéresser au politiquement correct et à ce genre de thématiques. Donc, à la lumière de ce problème, je voudrais me demander comment une œuvre peut-elle soutenir une telle diversité d'interprétations? Et mon hypothèse, celle que je voudrais présenter dans le cadre de cette présentation-là, c'est que la pensée sémiotique de Tolkien, dans laquelle la diversité des interprétations possibles occupait vraiment une place centrale, a influencé l'écriture de son œuvre et a donc permis de soutenir une telle diversité d'interprétations. Avant de commencer, je vais dire quelques mots sur qu'est-ce qu'une pensée sémiotique, donc pour un peu mettre dans le bain. Donc, la sémiotique ou la sémiologie, je ne vais pas rentrer dans le débat de ce qui distingue l'une de l'autre, c'est l'étude du signe et des processus d'interprétation. Donc, dans ce contexte, ce qu'on appelle une pensée sémiotique ou une théorie sémiotique va être une théorie sur le fonctionnement des signes. Donc, on va se demander comment se construit le rapport entre la manifestation physique d'un signe et sa signification. Et plus largement, quelle est l'importance de ces signes-là dans la vie intellectuelle et dans la vie quotidienne? Donc, quand je parle de la théorie sémiotique de Tolkien, qui est mon sujet de thèse, c'est dans le fond d'aller voir dans les écrits plus théoriques de Tolkien, donc par exemple, On Fairy Stories, Les monstres et les critiques, ou même l'avant-propos de Lord of the Rings, qui est quand même assez chargé au niveau théorique, de voir comment il représentait le fonctionnement des signes et leur importance. Donc, c'est plutôt ça qui va être le cœur de ma présentation. Donc, maintenant, je voudrais vous présenter quelques arguments, en fait, en faveur des lectures féministes et progressistes de Tolkien, de son œuvre. Donc, pour voir un peu comment celle-ci se positionne en opposition aux lectures plus conservatrices de son œuvre. Donc, le premier argument que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est son utilisation du terme « queer ». Donc, je vous ai mis ici une image d'un livre qui a été écrit par Jane Chance, qui porte entièrement sur le terme « queer » dans l'œuvre de Tolkien. Donc, évidemment, ce que je vous dis là, en une minute ou deux, c'est vraiment un gros résumé. Donc, le sens « queer » aussi dans le langage de Tolkien, c'est pas nécessairement le même sens que ce qu'on lui donne maintenant. Donc, on parle pas vraiment d'une identité de genre qui serait non conforme, mais dans un sens plus large, c'est un synonyme d'étrange. C'est quelqu'un qui ne correspond pas vraiment aux attentes de la société envers lui ou elle. Donc, c'est de s'intéresser, en fait, aux marges de la société et aux personnages, dans le cas d'un œuvre littéraire ou idéoludique, donc des personnages qui se retrouvent en marge de cette société-là, qui sont jugés de moindre importance, négligeables, etc. Donc, c'est vraiment de s'intéresser à la marge. C'est un terme qui est associé à plusieurs personnages, dont principalement Bilbon et Frodo. Donc, c'était quand même intéressant de voir que les deux protagonistes sont positionnés d'emblée comme queer, comme étranges, des personnages qui ne s'insèrent pas bien dans la culture de la comté, mais aussi de la Terre du Milieu plus généralement. En guise de parenthèse, c'est quand même important, à mon sens, de rappeler que le terme queer était très fréquemment utilisé par Tolkien pour se décrire lui-même. Donc, il se percevait lui-même comme quelqu'un d'un peu étrange, en marge de sa société, même s'il était dans une position extrêmement privilégiée de professeur d'université et tout ça. Il se considérait comme quelqu'un de marginal. Donc, au niveau de la représentation des personnages, principalement Bilbo et Frodo, les arguments en fonction de l'utilisation du terme « queer », bien, premièrement, un sens plus terre-à-terre, c'est que ce sont des hommes célibataires qui vivent ensemble et qui n'ont apparemment aucun intérêt envers le mariage. Donc, déjà, ça les met en marge d'une société qui est beaucoup basée sur mariage d'un point de vue classique. Mais aussi à un niveau plus global, au niveau de l'écosystème de la Terre du Milieu, ce sont aussi des personnages qui sont très négligeables au niveau de leur puissance. Donc, la comté est entièrement considérée comme peu importante, négligeable, parce qu'il n'y a pas de grand centre de pouvoir qui se positionne à cet endroit-là. Donc, les deux principaux protagonistes de Tolkien sont décrits dans son œuvre comme étant des personnages marginaux, queer, autant par la manière dont ils vivent leur vie que par leur position géographique et culturelle. Un autre argument que Chance présente dans son livre et qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'elle interprète Le Seigneur des Anneaux, donc The Lord of the Rings, comme étant un ouvrage qui traite entre autres des dangers de l'uniformisation. Donc, c'est en fait une espèce de valorisation de la diversité à travers la communauté de l'anneau, par exemple, contre les dangers d'une uniformisation qui serait mise de l'avant par une certaine industrialisation et qui, elle, serait représentée par le pouvoir du Mordor et de Hortank, qui se se positionne d'une manière explicite à travers le poème de l'anneau, donc une gouvernance unique, donc un anneau pour les gouverner tous de manière unique, uniforme. Donc, ce serait ça, selon elle, selon son interprétation, ce serait ça le cœur du propos du Seigneur des Anneaux. Le deuxième argument que je voudrais vous présenter, c'est celui qui concerne les modèles de masculinité. Donc, comme moi, je fais souvent des études de communauté, je vous ai mis des interprétations qu'on retrouve sur Internet très fréquemment. Donc, les vrais hommes, ça pleure pas. Et ensuite, plein de personnages très puissants, très importants qui sont en train d'exprimer des émotions. Donc, on va retrouver dans l'œuvre de Tolkien une subversion de plusieurs attributs qui sont typiquement féminins, donc qui sont associés aux personnages féminins habituellement. Donc, le fait de démontrer publiquement des émotions de manière très, très forte aussi, mais aussi le fait de prendre soin des autres, donc ce qu'on appelle le care, qui est habituellement un attribut féminin qui va là se retrouver comme extrêmement valorisé. Des personnages masculins qui vont exprimer leur amour, leur attention, leur proximité d'une manière qui est habituelle, qui est non habituelle, disons, dans une société patriarcale. Dans le même ordre d'idées, il y a le fait que ce soit les personnages qui sont les moins typiquement masculins. Donc là, on parle vraiment d'un archétype masculin comme le grand guerrier surpuissant, le roi guerrier et tout ça. Donc, c'est justement les personnages qui sont petits, qui sont faibles, qui n'ont pas de puissance particulière, donc qui vont être capables, eux, de faire une plus grande différence. Et que c'est justement cette différence-là, le fait qu'ils ne sont pas dans le grand modèle de ce qui est valorisé au sein de leur société, qui fait en sorte qu'ils sont capables de sauver, entre guillemets, le monde de sa fin. Donc, le fait de mettre en scène des personnages hobbits qui sont trop faibles, qui n'ont pas d'importance particulière au sein de l'écosystème politique, c'est une manière de subvertir un peu les modèles de masculinité, donc de présenter l'importance de divers modèles de personnages. Pour reconnaître, dans le fond, la valeur et l'apport que des petits personnages, entre guillemets, apportent finalement à l'histoire. Ce qui m'amène, en fait, au troisième argument que je voudrais vous présenter aujourd'hui, qui est clairement le plus connu, qui porte le plus à débat. Donc, je vais le présenter de manière très succincte parce que, comme je l'ai dit, je ne fais pas d'études littéraires, donc je n'ai pas les outils nécessaires pour faire une lecture poussée comme celle qui a été présentée avant moi, là, donc je n'ai pas ces compétences-là, qui est la question des personnages féminins. C'est une question qui porte vraiment à débat dans le cercle des fans de Tolkien. Donc, le constat principal, c'est qu'il y a très peu de personnages féminins dans l'œuvre de Tolkien. Quand on compare au niveau d'un point de vue quantitatif, je ne pense pas qu'on peut débattre de ça. Oui, clairement, beaucoup moins de personnages féminins que de personnages masculins. Face à ce constat, il y a deux principaux arguments que je voudrais présenter. Premièrement, c'est la puissance de ces personnages féminins. Donc, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais leur importance est quand même non négligeable. Donc, c'est sûr qu'on va penser premièrement à Éowyn et à Galadriel, qui sont des personnages féminins extrêmement puissants au sein de l'univers de la Terre du Milieu. Mais aussi, dans peut-être moins connu ou moins mis de l'avant, il y a le personnage de Lúthien, dont vous avez une image ici, qui est en fait la seule à avoir affronté directement Morgoth et à avoir gagné, entre guillemets. Elle n'a pas vraiment gagné, mais elle a quand même triomphé de ce combat-là. Donc, qui est une femme elfe extrêmement forte, qui va tenir tête à son père, qui va s'enfuir pour partir à l'aventure avec l'homme avec qui elle veut être et qui va réussir à affronter quand même une divinité, entre guillemets, et ressortir victorieuse de ce combat. Et d'un autre point de vue aussi, un autre personnage que je voudrais vous présenter très, très brièvement, c'est le personnage de Lobelia, qu'on ne voit pas dans les films, mais qui est la femme qui énerve beaucoup Frodon au début du Seigneur des Anneaux, mais qui est aussi la seule qui va se rebeller pendant le pillage de la comté, donc qui va ne pas accepter de se soumettre aux pilleurs qui arrivent et qui veulent changer le fonctionnement de la comté et qui, elle, va prendre les armes et affronter directement le nouveau pouvoir qui essaye de s'imposer sur la comté. Donc, mais face à même l'importance de ces personnages féminins-là, Chance met de l'avant un autre argument qui est en fait que le monde, quelque chose qu'on a tendance à oublier souvent, c'est que le monde de la Terre du Milieu est un monde qui va mal. Okay? Donc, tout est en train de se détruire. C'est un monde qui est en perdition. Et que l'absence de femmes est justement une des causes de cette perdition-là. Donc, elle va donner, par exemple, l'exemple des femmes elfes, des femmes Ents qui ont quitté Donc, le fait que ces femmes-là aient quitté, ça fait en sorte que ben, la société, si on peut l'appeler comme ça, la société des Ents, est en perdition et que c'est aussi l'absence de valorisation de l'apport féminin qui fait en sorte que plusieurs des sociétés qu'il y a dans la Terre du Milieu sont en perdition. Et que c'est l'intervention de personnages soit féminins, à travers notamment Eowyn, ou de personnages qui démontrent des attributs féminins qui vont permettre de résoudre la quête et en fait de sauver la Terre du Milieu de sa perdition. Donc, c'est que peut-être ces deux éléments-là mis ensemble, donc le fait que les personnages féminins sont extrêmement puissants et le fait que c'est un monde qui va très mal et qui va être sauvé par l'intervention de personnages féminins, fait en sorte que, selon elle, on peut quand même soutenir que la question des personnages féminins soutient une certaine lecture féministe, donc féministe en guillemets, donc on la remet aussi dans son contexte, mais que, selon elle, il y a quand même un apport non négligeable à la lecture des personnages féminins dans la résolution de l'énigme et dans le fait de pouvoir sauver ce monde-là de la perdition. Donc, face à ces trois arguments que j'ai présentés brièvement, je voudrais retourner à la question qui est en fait comment une œuvre, une même œuvre, peut soutenir une grande diversité d'interprétations. Donc, comment on peut à la fois retrouver des interprétations féministes comme celles que je viens de présenter et des interprétations misogynes ou suprémacistes blancs et tout ça. Donc, ici, je vous ai mis un exemple qui, selon moi, représente assez bien le type de problème et le type d'affrontement qu'il va avoir au sein des communautés en ligne qui discutent de l'œuvre de Tolkien. Donc, ici, vous avez un dessin qui a été fait par un artiste, Corazir, qui voulait montrer en fait que l'œuvre de Tolkien peut être lue par une grande diversité de personnes et que tout le monde peut trouver quelque chose à lire dans cette œuvre-là et qui s'est fait ensuite insulter publiquement par des fans qui disent « Excuse me, this is a Tolkien blog. We, your followers, are majority far right. » Donc, qui soutiennent que les fans de Tolkien sont tous d'extrême droite et que la question de la diversité au sein de son œuvre ne devrait même pas, en fait, faire l'objet d'un débat parce que c'est tout à fait clair que c'est une œuvre de droite. Donc, il y a quand même une très grande diversité. Donc, des deux côtés, on essaie de réclamer l'œuvre de Tolkien comme faisant partie de notre culture. Donc, dans ce contexte-là, j'aimerais présenter un petit peu plus la pensée sémiotique de Tolkien. Donc, par le concept, un des concepts qui va présenter, mais je pense que dans ce cas-ci, c'est vraiment quelque chose qui s'applique plus. Donc, il y a le concept d'applicabilité. Tolkien était très connu pour son opposition aux lectures allégoriques. Donc ici, je vous ai mis un mime que j'aime beaucoup qui compare en fait le type d'interprétation qui est mis de l'avant dans le processus créatif de la part de Lewis et de la part de Tolkien. Donc Lewis qui avait vraiment plus une écriture allégorique justement, donc qui cherchait à ce que les lecteurs comprennent très bien de quoi on parle, alors que Tolkien voulait mettre de l'avant plutôt une diversité d'interprétations. Et c'est là que le concept d'applicabilité rentre en ligne de compte. Donc deux modèles de lecture, donc le modèle de l'allégorie, qui va en fait chercher à faire une espèce d'équivalence entre des éléments du monde secondaire et du monde primaire. Donc, je vous ai mis ici l'exemple de la fameuse lecture du Seigneur des Anneaux comme une réécriture de la Première Guerre mondiale. Donc, à travers cette lecture-là, certains éléments du monde secondaire vont être mis en correspondance directe avec des éléments de l'histoire. Donc, dans ce type de lecture, le Rohan et le Gondor vont devenir des équivalents des alliés, alors que le Mordor et Orthanc vont devenir des équivalents des empires centraux. Donc, c'est vraiment un type de lecture que Tolkien trouvait extrêmement réductrice. Donc, lui, face à ça, s'opposait ouvertement à ce type de lecture et disait qu'il préférait de loin le modèle de l'applicabilité qui réside dans la liberté interprétative du lecteur ou de la lectrice. Donc ici, je vous ai mis un schéma qui est inspiré du schéma de Peirce. Donc ceux qui connaissent un peu la sémiotique vont reconnaître très clairement ce schéma. Donc selon lui, il disait en fait que le rapport entre le texte et son objet, donc ce à quoi on le renvoie, c'est le lecteur ou la lectrice qui doit décider ce à quoi ça renvoie. Donc, c'est une espèce de prise de position pour une lecture actualisante. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Citon, c'est un concept que lui met de l'avant. Donc, ce sont des lectures qui sont anachroniques, souvent qui vont sélectionner à divers moments, divers éléments pour correspondre, en fait, au contexte immédiat du lecteur et qui vont permettre de mettre en rapport, en fait, l'œuvre et ce que le lecteur ou la lectrice vit au moment où il le lit. Donc, en fait, ça pose la question de comment on fait pour mettre de l'avant ce type de processus sémiotique-là. Donc, selon moi, ce type de lecture est mis de l'avant par une sorte d'écriture qui permet et qui soutient la diversité des interprétations à travers, entre autres, la complexité de l'univers et le caractère affectif qui est beaucoup mis de l'avant, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de manières pour le lecteur de se reconnaître dans les émotions des personnages et de mettre ça en lien avec ce que lui a vécu, ses propres défis. C'est aussi un refus d'une détermination du sens en amont de l'actualisation, donc refuser de déterminer le sens, de trop orienter le lecteur par certains commentaires, comme il le fait entre autres dans Le Hobbit et qu'il va regretter plus tard d'avoir fait, donc des petits commentaires dans la narration qui orientent la lecture trop clairement. Donc lui, il va plus tard revenir sur cette décision créative qu'il a fait et décider de ne plus le refaire, donc de laisser la liberté au lecteur, à la lectrice, de trouver lui-même le sens et la valeur au sein de sa vision du monde. En guise de conclusion, je voudrais juste dire quelques commentaires, quelques remarques rapides plutôt concernant ce type de sujet d'étude. Je crois qu'il est vraiment important de faire une distinction très claire de l'objet de la question et de le définir très clairement. Dans les études sur Tolkien, particulièrement quand on parle de sujets en lien avec la diversité, le féminisme et tout ça, on a tendance à faire un amalgame entre l'individu, son œuvre et son actualisation dans un contexte culturel précis, donc la lecture qu'on va en faire dans un certain contexte. Et selon moi, cet amalgame-là contribue au fait qu'on a l'impression d'un peu répéter toujours les mêmes arguments et de jamais arriver en fait à une conclusion. On va avoir tendance à prendre des propos que Tolkien a dit ou a soutenu dans des lettres ou tout ça, comme si ça expliquait son œuvre et ses lectures potentielles. Donc, il a pris à plusieurs moments eu des prises de position antiracistes, quelque peu féministes, donc pas dans le sens du féminisme de troisième vague qu'on a en ce moment, mais quand même, à son époque, c'était considéré comme féministe. Et sa situation de minorité, donc au niveau autant religieux que sa naissance en Afrique, donc qui lui a quand même amené une situation de minorité qui était quand même difficile à vivre au sein de son université. Mais ce type de propos ou de caractéristiques, selon moi, n'explique pas la diversité des interprétations parce qu'en fait, très peu de lecteurs vont chercher à faire des lectures biographiques, donc d'aller rechercher des éléments d'une œuvre et de le mettre en lien avec la vie de l'auteur. Donc, il faut aussi accepter que les ouvrages de Tolkien, comme de toutes les autres, sont des espaces d'expérience signifiantes. Donc, il faut accepter toutes les interprétations possibles, et cela même si ça ne correspond pas à notre lecture privilégiée, même si on voudrait mettre de l'avant un côté féministe parce que ça correspond à nos valeurs, il ne faut aussi pas oublier qu'il y a d'autres manières de rendre les récits signifiants et que c'est justement cette marge d'indétermination du sens qui rend les œuvres aussi signifiantes, aussi importantes au niveau culturel.